en sol majeur vous propose cette rediffusion.
A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est une réalisatrice amoureuse de la culture hip-hop. D'ailleurs, Nadja Arek a encore le bout de sa caméra tout humide. Quelques gouttes du canal du Mozambique, sans doute. D'ailleurs, ça sent un peu l'igname, la fougère et l'ananas. Ça sent Mayotte. Nadja Arek, tout en basket, est partie filmer ces Mahorais qui font du breakdance pieds nus là-bas. Elle vient en sol majeur le couffin rempli de ce documentaire, Mayotte Hip-Hop Révolution, et de plein d'autres, Ma famille entre deux terres notamment, qui laisse entendre sa petite musique intérieure. Dans la vie de Nadja, qui porte un prénom poétique, surréaliste même, il y a une autre terre que la France, je me demande bien laquelle. Bonjour Nadja Arek.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous aimez bien, vous, dans la culture hip-hop ?
Wow, grande question, qu'est-ce que j'aime bien dans la culture ? L'énergie, la liberté, l'engagement, la folie aussi, la force, une force artistique inouïe.
Ce que vous n'aimez pas, c'est qu'on dise que le hip-hop vient de banlieue.
Ça veut absolument rien dire, je ne comprends pas ce mot. C'est un mot que j'utilise pas, que je ne pratique pas. C'est comme maghrébin banlieue, c'est comme noir banlieue, c'est un non-sens, quoi. Mmh. Voilà, tout
simplement. Pour dire que c'est pas né dans le 16e, le hip-hop.
Ouais, mais on s'en...
Oui, vous pouvez y aller.
On s'en moque, je veux dire...
Alors pourquoi vous, Nadja Arek, qui filmez le hip-hop depuis au moins une vingtaine d'années, pourquoi vous vous êtes focalisée aujourd'hui sur Mayotte ?
Parce qu'il se passe vraiment quelque chose là-bas. Et parce que c'est une terre oubliée, c'est une terre de la République, c'est un département français depuis 2011. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que il y a de plus en plus de danseurs, parce que il y a de plus en plus d'activistes, de créateurs, parce qu'ils ont des choses à dire et parce qu'on leur donne pas la parole aussi.
Et parce que vous les avez découverts au cours d'une battle.
Exactement,
précise, hein.
Exactement. Je les ai découverts à Montpellier en fait, à travers une manifestation qui s'appelle le Battle of the Year, qui est un championnat en fait national où une quinzaine de compagnies françaises présente une chorégraphie de 7 minutes, puis s'affronte en battle. Et c'est une année où est venue la compagnie Lil Styles de Mayotte, inconnue au bataillon. Ils sont arrivés sur scène, effectivement, et on a été tous bluffés. Ils ont eu le prix de la meilleure chorégraphie.
Ils sont arrivés sur scène pieds nus.
Ils sont arrivés sur scène pieds nus. Ils sont arrivés, ils ont posé leur basket au bord de la scène, donc devant 5000 personnes médusées, et ils sont mis à danser pieds nus, avec une tenue africaine, et représentaient la France.
Donc direction Mayotte avec ces deux petites îles, Grande Terre et Petite Terre, situées donc dans l'archipel des Comores, 5e département français d'outre-mer, on le rappelle. C'est là donc que vous avez suivi pour votre 52 minutes danseur, chorégraphe, activiste. Tiens, on va d'ailleurs s'arrêter pour écouter un certain Papa Jean, il est superbe. C'est un artiste graffeur qui est beau comme un dur rasta.
Là, aujourd'hui, il y a une petite ambiance hip-hop dans le quartier et du coup, eh ben, voilà, je suis venu pour apporter ma petite vibration à moi, quoi. Voilà. Alors le maquis, en fait, c'est un habitant de Mayotte. C'est parce que Mayotte, c'est une île et qu'on est tous arrivés à un moment X ou Y, on est tous des produits d'importation. Et le maquis aussi. Le maquis, je crois qu'il vient de Madagascar. Et alors voilà, c'est mon petit maquis, c'est mon petit ambassadeur de la ville de Mayotte, c'est moi, c'est toi aujourd'hui parce que t'es à Mayotte.
V comme vue du ciel.
Mayotte, vue du ciel, votre caméra, Nadja Arek, la filme, hein, c'est magnifique, c'est le rocher de Dzaoudzi et le fameux boulevard des crabes. Mais quand on pose le pied sur le bitume, c'est dur. D'abord, une première question, quand est-ce que le hip-hop est apparu à Mayotte ?
Oh, je pense qu'il y a une dizaine d'années à peu près, il devait exister, mais de manière très faible, il y avait peut-être 3-4 personnes qui rappaient. Très peu de danseurs, et c'est grâce vraiment à une personne qui s'appelle Abdallah Haribou,
Donc fondateur de l'association Hip Hop Evolution.
C'est une histoire incroyable, son histoire. Il a été, on va dire, parachuté à Nantes, je crois, quelque chose comme ça, en Normandie. Il a découvert la culture hip-hop à 15 ans en venant faire ses études de mécanicien en métropole. Il est revenu au pays quelques années plus tard avec son diplôme en poche. Il a décidé de développer la culture hip-hop, en tout cas à Mayotte. Année après année, il a rencontré ensuite un monsieur qui s'appelle Thomas Raymond, qui est le directeur de l'association Attitude et qui organise les championnats de France, c'est-à-dire le Battle of the Year.
D'accord, il y a donc cette association nouvelle qui est là, qui pose les bases déjà d'une petite infrastructure. Et puis il y a aussi pour les petits Mahorais qui sont du côté de Petite Terre et qui veulent faire du hip-hop, il y a depuis peu le Vagabond Lab. Alors qu'est-ce que c'est que c'est magnifique, hein, c'est un travail incroyable que vous filmez aussi magnifiquement. Qu'est-ce que c'est comme initiative et quels sont les objectifs?
Alors Mohamed Belarbi, c'est le chorégraphe et leader d'une compagnie qui s'appelle Les Vagabonds, une des compagnies françaises la plus primée au monde.
Et que vous avez filmé dans Du Cercle à la Scène.
Exactement.
Magnifique documentaire sur le hip-hop aussi.
Oui. Donc il a décidé en fait d'allier l'éducation à la danse. Et en fait, ces élèves vivent ensemble, mangent ensemble, dorment ensemble et pratiquent ensemble pendant plusieurs sessions comme ça, et une session d'une semaine. Ensuite, je crois que ça c'est sur une année. Et à la fin, ils acquièrent un savoir technique de danse et aussi, on va dire, ils progressent à l'école. Ils sont censés avoir des bonnes notes, c'est-à-dire qu'ils sont suivis tout au long de l'année par rapport à leurs notes à l'école et leur comportement vis-à-vis de leurs parents.
C'est un cursus complet, hein.
C'est un cursus complet.
On va l'écouter, Mohamed Belarbi, de la compagnie Vagabond Crew et formateur du Vagabond Lab.
C'est vrai que c'est la France, mais on sent pas la France, quoi. Sans aucun moyen. Ben, y a pas des infrastructures pour accueillir plus que 20 gamins. Comme nous, une trentaine de personnes, ben, on a mis du temps et à la fin, ben voilà. On a trouvé ce lieu-là, même s'il est magnifique et tout ça, mais c'est dur pour eux parce que avec une formation intensive comme celle-ci, dormir dans des tentes, sans vraiment de matelas en dessous, c'est pas la belle vie non plus. Ça, ils le savent, mais en même temps, de l'autre côté, on leur apprend, bah, on va essayer. Le but, c'est de mettre quand même ce projet-là, mais on va l'améliorer au fur et à mesure. On ne peut pas donner des leçons à des gens tant qu'on n'a pas vécu. On n'a pas essayé de chercher à comprendre déjà comment ils vivent, leurs méthodes, leurs traditions. On ne peut pas. Le jour où j'ai commencé à travailler avec eux et que j'ai vu que où ils travaillent, où ils s'entraînent, j'ai compris que jamais ils peuvent avoir la coupole comme nous on la voit. C'est-à-dire leur coupole, ils ne posent jamais la tête. Ben oui, mais quand tu travailles sur de la terre ou sur un sol dur, si tu poses ta tête, ben, tu vas avoir des balafres de partout. Donc, en fait, avec les moyens qu'ils avaient, ils ont adapté. Et bien ça, tu peux pas le comprendre. Si tu arrives, ouais, moi je connais tout, j'ai la science. Non, non, non.
Extrait en sol majeur de Mayotte Hip Hop Révolution, votre Doc Nadjar. Avec une petite précision, vous qui êtes immergé dans la culture hip-hop depuis vos 20 ans, hein, qu'est-ce qu'on appelle la coupole dans le hip-hop? C'est quoi comme figure?
La coupole, eh bien, c'est poser la tête au sol et puis tourner avec les jambes.
Voilà, donc c'est
une chose que je ne saurais pas faire.
Je vous rassure. Et donc, quand on est Mahorais et qu'on veut faire du hip-hop, c'est quand même très très compliqué de faire cette figure-là sur la terre elle-même.
Bah, ce qui est incroyable là-bas, quand on va là-bas, c'est ce manque d'infrastructures. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces jeunes? Comment ils s'expriment? Où est-ce qu'ils pratiquent? Qu'est-ce qu'il y a pour eux?
Vous avez été choqué, hein,
par oui,
l'état
choquée,
de ce département
triste.
Français.
Oui, oui,
hein.
Oui. Comment c'est possible aujourd'hui de... Le nommer département, en quoi c'est un département? Je comprends pas. Les plages pour les Noirs sont sales, les plages pour les Blancs sont propres.
On a encore des plages pour les Noirs et des
ben,
plages...
C'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai vu, donc pourquoi c'est pas mélangé? Je l'ai vu, de mes yeux vus, donc je peux pas dire « Ah ben c'est cool Mayotte, non ?» C'est pas cool Mayotte, non ? Les bidonvilles, c'est pas cool, c'est des tôles, c'est des gamins qui fouillent dans les poubelles, c'est pas des petites poubelles, des grandes poubelles, c'est-à-dire que c'est des amoncellements comme ça de détritus avec des gamins, on sait pas où ils dorment, à la sortie des hôtels, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles comme ça qui se prostituent, je veux dire, mais c'est grave quand même. C'est-à-dire que c'est, on parle toujours des clandestins, Mayotte, clandestins, grande terre, petite terre, la délinquance, les Mahorais, les Anjouanais qui prennent le bateau. Mais on, la réalité, on n'en parle pas, la réalité. Pourquoi on le nomme un département français ? Il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas de théâtre.
Vous, est-ce que, Nadja Harek, vous avez découvert un langage chorégraphique spécifique à Mayotte ?
Oui, bien sûr. La spécificité mahoraise, c'est une espèce de gestuelle un peu africaine. Il y a la capoeira et il y a beaucoup d'accro. Et ils ont une façon de bouger le bassin qui a rien à voir avec le break, mais qui est intégrée dans la pratique.
Vous avez filmé beaucoup de battles ici en France, dans l'Hexagone et dans le monde. Il n'y a qu'à aller visiter un petit peu sur Internet vos docs, Big Girls et puis du cercle à la scène. Comment on fait techniquement pour filmer une battle ? C'est pas simple.
Ah, il faut jamais perdre de vue le sol. Bien regarder et suivre le danseur. Pas l'enfermer, en fait. C'est-à-dire que le danseur hip-hop, il quitte toujours le cadre. Il n'a pas de cadre. Donc il dépasse le cadre, il dépasse tout. Il est dans les airs. Comme dirait Jean-Pierre Thorne, grand réalisateur que j'admire, ils font kiffer les anges. C'est-à-dire que ils sont libres. Donc comment on filme une liberté comme ça, une liberté dans l'instant et dans l'acte de danser ?
Alors vous qui connaissez à la fois le milieu et les codes du hip-hop, vous me regardez très les yeux. Attention, qu'est-ce que ça va être la question ? Non, c'est cool, relax, pas de souci. Mais juste entre nous comme ça, c'était qui le meilleur des breakdancers de Mayotte ? Pour vous, Nadja Harek ?
Oh,
c'est pas gentil ça comme question.
C'est celui qui ouvre mon film.
Ah oui, mais alors, vraiment ouverture majestueuse sur le sable de Mayotte. C'est un gamin qui a, je sais pas, il a 17 ans, ouais, comme ça. Il est pieds nus et il vole. Il vole.
Ramzan Atman n'est qu'un détail. Une bête du bétail, tu prends des coups, tu te la fermes et tu tailles. Pire qu'en musique, ici une blanche vaut sept noires. Triste retour dans l'histoire de toi en moi, de moi à vous. Je reste hors la loi, garde vos droits, j'y ai pas droit et puis c'est tout. Kiffe ma vie sous écoute, rien à foutre. À chaque battement, je représenterai les miens sous écrou. Allez leur dire qu'ici, les vrais voyous sont ceux qu'ils ont armés sciemment. Ceux qui nous respectent pas, bousculent nos mamans, tirent sur des enfants, gazent des nourrissons et se pointent devant les médias en mentant.
Le hip-hop, en général, il est né à partir des frustrations. Et à Mayotte, c'est ça. On le voit même en danse, on voit dans le milieu de la danse, dans le milieu même, les graphes. Hein. On vit une période charnière. On était plutôt par rapport à avant, Mayotte vient de rentrer dans la départementalisation, voir autre chose. Il y a beaucoup de frustrations, des déceptions, des choses comme ça. La multiplication des bidonvilles, les exclus qu'on n'avait pas il y a quelques années, il y a 5 ans. Les jeunes, aujourd'hui, ils écoutent beaucoup du rap français, mais eux, ils veulent faire leur propre truc. C'est ça qui est merveilleux parce qu'ils ne veulent plus copier. Ils veulent, bon, moi en tant que tel, je veux que de mon rap, je veux en vivre, je veux montrer quelque chose. Ce qui est bien, quoi. Même au niveau de la danse, il y a certains qui ajoutent des pas de danse traditionnelle dans leur danse. Donc, c'est vraiment Mayotte a beaucoup de choses à donner, à vraiment d'elle-même.
Allez, la réponse, c'est parti.
Ah, c'est pas mal, hein, ce que dit Zetsi. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a désormais un rap made in Mayotte. Nadja Harek.
Exactement, oui. Un bon rap à texte, comme il en existait beaucoup, plutôt dans les années 90.
Pourquoi il y a eu après une...
Il y a moins de...
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Peut-être qu'ils ont peut-être moins de choses à dire, les jeunes aujourd'hui, mais en tout cas... il y en a, mais je pense que je vais pas être catégorique, mais en tout cas, lui, Monsieur Papier, enfin Zetsi, le rappeur Zetsi, il est dans la lignée des rappeurs de la grande époque du texte, quoi, enfin des lyrics, comme on dit. Mmh. Et Zetsi.
Pourquoi on l'appelle Monsieur Papier ?
Parce que, en fait, sur scène, ce qui est intéressant, c'est que il met une tenue tout en papier journaux, mais il est mieux placé pour en parler parce que. Pour lui, les papiers, le journal représentent en fait l'information, en fait
la surinformation,
exactement, et également les histoires des papiers, parce que la France est un pays de papiers, un pays de paperasse.
Qu'est-ce que vous défendez, vous, avec ce film Mayotte Hip Hop Révolution ?
Je défends une idée des valeurs du hip hop, une idée aussi des valeurs humaines, une idée de l'engagement. C'est de l'action politique, il y a quelque chose de politique dans ce que font ces gens-là. C'est-à-dire que là où les politiques ne font pas ce qui doit être fait, en fait, qui n'est pas si compliqué que ça. C'est ça qui est aberrant. C'est agir concrètement pour soutenir une jeunesse.
De quoi s'est fait une tête de réalisatrice qui s'appelle Nadja Harek, de références multiples, de doutes multiples aussi, c'est ce qui fait d'ailleurs votre richesse. Vous m'avez envoyé un SMS un soir en me disant, il y a un doc que j'aime beaucoup, c'est Le Joli Mai de Chris Merker. Et vous avez bien raison, c'est un film qui s'attarde sur Paris, au plus près des pavés, au plus près des visages, en ce premier mois de paix depuis 7 ans, parce que c'est un film réalisé en 1963.
Ces visages que nous croisons tous les jours, faut-il l'espace d'un écran pour qu'apparaissent ceux qui sauteraient aux trois yeux du martien fraîchement débarqué? On a envie de les appeler, de leur dire « Qu'est-ce qui ne va pas, visage? Qu'est-ce qui vous fait peur, que nous ne voyons pas et que vous voyez comme les chiens ?» Peut-être sentez-vous confusément que votre sort est lié à celui des autres, que le bonheur et le malheur sont deux sociétés secrètes, si secrètes que vous y êtes affiliés sans le savoir, et que sans l'entendre, vous abritez quelque part cette voix qui dit « Tant que la misère existe, vous n'êtes pas riche. Tant que la détresse existe, vous n'êtes pas heureux. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre. »
J'ai comme un grand quelqu'un.
Un grand quelqu'un du documentaire pour vous, Chris Merker, Nadja Harek.
Un homme libre. Un grand homme, un grand artiste. Puis alors là, la voix, je reste sans voix d'entendre Yves Montand. Et puis je l'y mets, c'est voilà, il y a la guerre d'Algérie quand même derrière.
On est en 63.
On est en 63. C'est, j'imagine, le premier mois de mai à Paris cette année-là. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, on pense pareil, des plaies. Et on célèbre aussi une indépendance. J'y étais pas, comme il dirait Cool Chain dans NTM, on n'était pas là, on s'en bat les couilles, on n'était pas là. Et j'étais pas là, mais ça fait partie aussi de mon ADN, donc les deux, hein, Joli Mai, c'est toute cette poésie, voilà, il y a un côté surréaliste, les images, elles sont puissantes, on donne la parole librement aux gens. Aujourd'hui, si on part faire un documentaire de cet ordre-là à Paris, c'est quasiment impossible.
Pourquoi ?
C'est parce que les gens vous demandent, c'est pour qui ça va passer où, le droit à l'image, ah mais moi je n'ai pas envie de dire ça, après vous allez le mettre où, ça va aller sur Internet. On n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Par contre, c'est la même misère. À Paris, la misère, elle est toujours là, quoi.
C'est les Fugees du hip-hop américain. Pourquoi les Fugees?
Magique, c'est-à-dire que
le sourire en coin.
Ouais, j'ai le sourire en coin parce qu'il y a Lauryn Hill qui rappe super bien dans ce morceau et ils sont trois et il y a trois flows différents et ce qu'ils racontent, c'est fabuleux. C'est du vrai hip-hop, du grand hip-hop pour moi, du grand rap. Soldiers, left, right, left, right. It's time I settle the score. Left, right, left, right, left, left. It's time I settle the score. Ripper to the rum, rum to the ripper, single. But the times I come in triple, blah, blah. With the heat into your head, now you dead. White left, don't give a ooh if you're dead. Rock. Let me attack just like a black cat. You in the wrong neighborhood, check your map. You gotta go for backup to do what you gotta do. So you'll be back with Francie. You traitor in your crew is my fool. He put poison in my tea and killed the toad. But I'll be back with Centipede. I'm on some new technique, drunk in bamboo. I'm taking all crews. What? Competition stimulation for the rap man. Losers, check the tutors as I'm sucking on your girl hooters. Don't play macho cause you got the gun. So, cause if you gotta reload, man. Soldiers, left, right, left, right. It's time I settle the score. Left, right, left, right, left. It's time I settle the score. Yo, Wyclef, the multi-talented. Average heads can't handle it. I bring it to you live. Only if you want it. Me and my guitar go back like the days of the RMCs. Come on. Check out my melody.
The W-I-C-L-E-F-Y cleft the winning contest. I'm victorious. He'll keep it real if you really manifest through your skills, not by how many shells you peel.
I'ma bring down the ruckus, play the nutcracker. Rough net rednecks makes me no bother. Time after time, accent dilapa. Boss, you don't wanna fuck with my partners. Motion, commotion, what's your proposal? Uphold threefold, the crew is disposal. Like utensil, frost like dental. I autograph my lyrics with a number two pencil.
Cutting niggas off at the meeky freaky gullet. Lyrical sedative, keep niggas meditative. Head rushes I give to creative kids and fiends. Dreams of euphoria, aurora to another galaxy, phallaxy. Beat this microphone but you lift it. Lyrically I'm gifted, burn on it without the roach clipping. Hinders, mind bender, pleasure cinder. So frequently your nerve endings belong to me. Wrongfully you put me down, I receive the full capacity of my smoke. Whack niggas choke from the fumes that I emote. Or we bitch shit. See, even I feel the mahogany L. Natural hallucinogen. Tony Boy's Dominican with estrogen dreams. Release blues, yellows, and greens from Brownsville to Queens.
Ready or not, refugees taking over.
Because we soft spoken. Doesn't mean that we've forgotten. Are we permanent? One day you will be
soldiers.
Like a thief, no doubt the man swift. I'm more magnificent than Lee Van Cliff. You stand stiff and got the nerve to let your man rip.
We know where to run.
And start flaking like dandruff. Come on, son, my stilo's tight. Cause by far I'm the best producer on the mic.
Right.
On the right. Analytical conceptions with precision and leave lyrical incision.
Bing.
The Fugees sur RFI pour En Sol Majeur avec notre invité Nadja Harek. Une réalisatrice qui peut tranquillement passer du hip-hop à la question des origines. Et j'ai toujours sur la table dans Sol Majeur ces deux documentaires, De Mayotte Hip-Hop Révolution et Ma famille entre deux terres. Alors que sait-on de Nadja Harek jusque-là? Bien qu'elle filme le mouvement hip-hop merveilleusement, qu'elle a à l'œil ce département français qu'est Mayotte et qu'elle en pince pour le travail de Chris Marker et de Riti Pan. Sinon, Walou, rien. Rien encore sur le récit intime de celle qui s'est si bien filmée, son livret de famille. Sauf que, ça je le sais parce que vous me l'avez confié, vos ancêtres féminins ressemblaient, Nadja, à des indiennes au visage tatoué. Ils venaient d'où alors vos aïeux?
Du sud-est algérien, dans la région de Sétif. Donc à 200 km au sud-est voilà, de Sétif, entre Batna et Sétif. Barika, Biskra, voilà, les terres arides... quelques moutons.
La terre ocre.
La terre ocre, exactement. Ouais.
Vous aimez bien votre prénom, Nadja?
Ouais, je l'aime bien, mon prénom, mais je ne l'aimais pas avant. Enfin, on n'a jamais prononcé mon prénom correctement. On m'appelle Nadia, alors que je m'appelle Nadja. Il y avait un H et un E, puisque c'était Nejeh. Il y avait toujours un N mal placé.
Il fallait dire Lise Breton, André Breton.
Ouais, mais justement, j'ai enlevé le H et le E pour qu'on comprenne vraiment qui est ma filiation finalement avec Breton.
Est-ce que vous... Alors c'est quoi la filiation?
Avec Breton? La folie. Il y a aussi l'absence de lendemain, quoi. Et se perdre aussi. Ce qu'il y a avec Breton, c'est se perdre dans les rues, ne pas savoir où on est.
Vous êtes une nomade et peut-être une anxieuse aussi qui se soigne en regardant des films d'horreur. On va écouter un extrait du film de Franju, Les yeux sans visage. Faites pas la grimace.
C'est encore
vos,
peur.
C'est vos 14 ans, ça peut être. L'histoire, alors en deux mots, c'est quoi?
Alors, Les yeux sans visage, c'est un monsieur, un chercheur. Un chercheur.
Un médecin.
Un médecin qui a sa fille chez lui et qui a une complice qui est sa secrétaire. Enlève des femmes pour leur retirer la peau du visage, pour la greffer, parce qu'il est spécialisé dans la greffe, pour la greffer sur le visage de sa fille qui a eu un accident de voiture et qui a été défigurée.
On m'a enlevé les miroirs. Mais il y a les vitres qui me reflètent quand la fenêtre est ouverte. Il y a tout ce qui brille. La lame des couteaux. Le bois verni. Ma tête me fait peur. Mon masque me fait plus peur encore.
Soyez confiante, Christiane. Regardez-moi. Est-ce qu'il n'a pas déjà réussi sur moi?
Vous aviez un visage, vous. Abîmé, peut-être, mais pas détruit comme le mien. Il me ment. Il me ment parce qu'il sait que c'est sa faute.
Sa faute? Un accident de voiture. Le hasard.
Le hasard. Son besoin de dominer tout le monde, même sur une route. Il conduisait comme un démon. J'allais mourir après l'accident. Pourquoi a-t-il tout fait pour que je vive? Je voudrais être aveugle. Aveugle. Morte.
Film en noir et blanc de 1960, donc Les yeux sans visage. Je sais pas à quel âge vous l'avez vu, ou Nadja Harek?
Oh, je sais pas, mais très jeune. Hein. J'étais, je sais même pas si j'étais au collège.
Premier choc cinéma pour vous, positif ou négatif alors?
Positif, ouais, positif. Enfin... secret, quoi. À qui en parler? C'est-à-dire que j'étais la seule à l'avoir vu, puisque la télé, elle était dans la chambre. Mon père avait remplacé la télé et je l'avais allumée. L'interdit, quoi, d'allumer la télé le soir. Et je tombe sur ce film. Donc avec le générique qui fait peur de cinéma de minuit, là, de France 3, là. Et je l'ai regardé en entier. Et personne n'est venu me déranger. Et le lendemain, j'étais... Je me sentais différente des autres parce que j'avais vu ce film et il est effroyable.
Donc vous découvrez un autre monde,
le cinéma.
Est-ce que vous enchaînez
Paris
avec
aussi.
Paris aussi?
C'était la première fois que je voyais Paris à la télé. Parce qu'il y avait la Tour Eiffel, il y avait les rues, plein de voitures, des femmes qui marchent avec des imperméables, des chaussures à talons... Paris, quoi.
Car en fait, votre adolescence se passe à Cluses, en France, donc pas loin d'Annecy, pas loin de la frontière suisse. Ouais. Est-ce qu'il y a des gangsters à Cluses?
Bon, il doit y en avoir, mais j'ai pas trop côtoyé. Des gangsters comme dans les films, vous voulez dire?
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
I know I'd go from rags to riches.
To me, being a gangster was better than being president of the United States.
Never rat on your friends. And always keep your mouth shut.
It meant being somebody in the neighborhood that was full of nobodies.
S.
Oh, you broke it, Jerry!
S comme Sésame.
Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. C'est la phrase qui démarre superbe film Les Affranchis de Scorsese, que vous avez kiffé grave, Nadja Harek.
Plus que kiffé, c'est le film qui m'a fait prendre une grande décision dans ma vie. Je sais pas, moi, j'ai vu ce film sur grand écran à Grenoble, dans une salle de cinéma. J'étais en fac de droit et j'ai dit stop la fac de droit. C'est fini, moi, je vais faire des études de cinéma, c'est terminé.
Pourquoi, en voyant des gangsters qui...
Ben, c'est surtout en voyant des mecs qui prennent leur vie en main, quoi. Qui disent, bon, ben voilà, c'est ça qu'on va faire, on va être des gangsters. Bon, j'ai pas été gangster, mais bon, j'en ai côtoyé, j'ai pas été loin, j'ai pas franchi la ligne, comme on dit.
Ouais. Alors, en fac de droit, vous chômiez pas, si j'ose dire, intellectuellement, puisque vous étiez en train d'étudier, je sais pas si c'était un mémoire que vous prépariez, mais vous travaillez sur la culpabilité dans le catholicisme.
Bah, c'est pas en droit, en fait, c'est en fac de cinéma que je travaille, en fait, là-dessus. Alors, pourquoi la culpabilité? Je saurais vous l'expliquer, mais en tout cas, les personnages de Scorsese payent. Se sentent coupables. D'ailleurs, un documentaire de Scorsese fabuleux qui s'appelle Italian American commence avec cette phrase « Nous sommes tous coupables devant Dieu ». Voilà. Mais en tout cas, la culpabilité, c'est un thème qui m'est très très cher. Ouais.
Beaucoup de fiction dans vos coups de cœur à vous. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser aux documentaires?
Comment j'en suis arrivé à m'intéresser aux documentaires? L'humain. L'humain, l'homme, la femme, l'être humain.
Alors j'invite les auditeurs, s'ils le peuvent, à mettre un jour la main sur votre film de stage que vous avez consacré à une certaine Tata Milouda, qui est la star du Slam Senior. C'est un très beau portrait que vous lui avez consacré. Mais le film qu'il faut absolument signaler, c'est celui que vous réalisez en 2015 et qui d'ailleurs vous a valu le Grand Prix du Festival Europe-Orient du film documentaire de Tanger en 2016, on en revient, donc on les embrasse, qui vous a valu également le Grand Prix de télévision marocaine, et c'est mérité. Il s'agit de « Ma famille entre deux terres », c'est le titre, où vous braquez, Nadja Harek, votre caméra sur vos parents venus d'Algérie qui vous ont fait grandir en France, en Haute-Savoie.
À sa retraite en 2001, mon père a décidé de retourner au pays, sur les terres de son père. Depuis, je m'interroge sur son choix. Ce tiraillement entre le désir d'être près de ses enfants et celui d'être sur sa terre d'origine, où, petit garçon, il emmenait paître ses chèvres et ses moutons.
Ça a 150 ans. بوي مون بير كي قسم بنا نروحو منها بصح كانت لي بيان
اي كوم انتر دو.
Magnifique documentaire qui pose donc la question de cette entre deux terres et de ses multiples répliques. Pour vous, Nadja Harek, le déclencheur de ce doc, ça a été donc la décision de votre père de repartir sur sa terre natale. À travers l'exemple de vos parents, vous diriez que cette question du retour, elle est vécue de façon différente du côté homme que du côté femme. Les hommes ont une propension au retour beaucoup plus que les femmes.
Alors peut-être que c'est parce que les femmes sont mères. Et parce que elles sont viscéralement attachées à leurs enfants, qu'elles sont plus tournées vers la France pour continuer à veiller sur leur progéniture, et que le père a fini le travail, est à la retraite, il a lâché les machines, il a lâché l'huile, il a lâché la mécanique, voilà, et qu'ils veulent en fait retourner. Ce qui est normal.
Il a cette phrase, votre père, moi je pense à ma vie, et il dit à sa femme, toi tu penses aux enfants.
Exactement, c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas. L'émigré est un exilé qui ne quitte jamais vraiment ses origines. C'est quasiment la première phrase de votre documentaire. Donc ça, cette phrase, visiblement, elle a été le pivot de vos parents qui vous ont... Vous diriez qu'ils vous ont éduqué, vous les enfants, vous étiez 7 hein, dans la fratrie. 10 enfants dans la fratrie. Vous diriez qu'ils vous ont éduqué dans ce moule des origines. C'est une question, hein.
Le moule des origines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le moule des origines?
Dans la tradition, dans ce qui fait la culture algérienne, qui était la culture première de vos parents.
Ils parlent arabe. On mange arabe. Nos parents nous parlent arabe, on leur parle français. C'était ça l'éducation.
Vous, Nadja Harek, pour construire ce documentaire, vous êtes le pivot, vous êtes voire même l'actrice de ce documentaire. Et oui, et pourquoi vous faites la grimace?
Vous
faites beaucoup la grimace. Hein.
Ouais.
C'était important d'être actrice de ce documentaire? Vous interviewez vos parents, vos frères et sœurs?
La question elle s'est posée au bout de 3 ans de repérage sur ma place. C'est quoi ma place?
Dans
ce film, est-ce que je suis à l'extérieur, est-ce que je suis à l'intérieur, est-ce que je suis sur le côté, est-ce que je suis en biais, où est-ce que je me mets, quoi. Et il fallait que je sois avec mes parents, avec mes frères et sœurs, pour faire le film avec eux, en fait. C'est difficile de
C'était
faire
faux.
Un... Faux, c'est difficile de faire un film sur sa famille, très très difficile. C'est-à-dire que c'est beaucoup de douleurs, beaucoup de choses cachées, et peu importe les origines, hein.
Alors ce qui est très émouvant, c'est de voir ces fameuses répliques dont je parlais, c'est-à-dire c'est les conséquences de cette pression des origines qui s'exerce sur les enfants. Et il y a un moment dans ce doc qui est très beau et très étonnant. C'est ce moment où votre frère Kamel explique pourquoi, sur les traces d'ailleurs de son grand frère, il décide d'aller se marier au bled.
À un moment, je suis arrivé à l'âge de 30 ans. J'étais pas allé en Algérie pendant 2-3 ans et tout ça. En fait, j'étais ici, j'avais ma vie ici de serveur. Voilà, j'étais avec quelqu'un, je me suis installé, tout ça et tout. Après, ça commençait à être... En tant qu'Algérien, t'es obligé de te marier. Tôt ou tard, tu dois montrer à tes parents que tu te maries, que la descendance, tout ça et tout. Parce que là-bas, si tu te maries pas et tout, t'as 30 ans, t'arrives en Algérie, autour de toi, ils se disent pourquoi il est pas marié, il est fou, il est gay ou quoi. Je voulais me marier au bled pour faire plaisir à mes parents, pour leur montrer que voilà, on va faire une famille, ils voulaient de la descendance, en gros, que je serais là, que j'ai pas oublié, quoi. Mais moi, je tout le monde vit avec les deux pays. J'ai divorcé parce que je me suis aperçu que c'était toute une mascarade, en fait. C'était un mariage fake. J'étais faible, il y a la pression familiale de la mère qui veut vraiment montrer à ses sœurs que, regardez, j'ai marié mon fils, voilà.
Eh oui, il est courageux, votre frère. Hein.
Très courageux, je le salue. Et c'est douloureux encore pour lui, c'est douloureux pour moi, mais c'est surtout douloureux pour lui parce que j'ai fixé ce moment.
Du mariage. Alors il faut expliquer.
C'est ça qui est terrible.
Ce moment de mariage qui se passe donc au bled de façon traditionnelle. On le voit entouré de toute la famille, etc. Et il y a un rituel dans les mariages qui veut qu'on donne de l'argent. On voit votre mère qui dit, voilà, un tel donne tant, etc. Et on voit votre caméra s'arrête sur le visage de votre frère et de sa femme. Et ce n'est pas exactement le bonheur qu'on lit sur leur visage.
Qu'est-ce qu'on lit sur leur visage? On lit une destinée qui leur appartient pas. Et il y a un aspect important sur... pression, on parle souvent de la pression des filles, des interdits, qu'elles n'ont pas le droit de sortir, ce qui est vrai, ce qui est tellement, encore aujourd'hui, tellement banal et tellement fréquent. Mais on parle pas de la pression, en fait, que subissent les garçons.
C'est l'honneur
de la famille. Mmh. C'est l'homme l'honneur de la famille, c'est pas la femme. Enfin, la femme, c'est le déshonneur, on va dire.
C'est terrible.
Mais c'est vrai.
Mais ce qu'on observe, c'est effectivement un mouvement presque contraire, en tout cas dans votre fratrie, Nadja Harek. C'est-à-dire d'un côté, les garçons qui font le grand saut en Algérie, et de l'autre côté, pas les filles.
Ouais, c'est parce qu'on doit ressembler à notre père, quelque part. Et à notre mère, quelque part aussi.
C'est-à-dire ?
Si je regarde bien le caractère de mes parents, mon père, il s'est rebellé quand même. Il est parti. Tout le village est resté. Tous ses frères sont là-bas. C'est le seul qui est parti en France, qui a dit « Moi, je veux pas être paysan comme vous, moi. » Moi, je vais aller porter des jeans Levi's et écouter du yéyé, aller au cinéma avec ma femme. C'est ce qu'il faisait quand il était en France au début. Il emmenait ma mère en moto pour aller voir des westerns.
Ah oui.
Ça, je l'ai appris il y a quelques années. Mais voilà.
Votre frère, il a cette phrase, tout le monde vit avec les deux pays. Vous, personnellement, vous avez quelle relation aujourd'hui avec l'Algérie?
Également, je vis avec les deux pays, mais quelle relation j'ai avec l'Algérie? Que vous dire. J'y vais régulièrement pour voir mon père et ma mère. J'y vais pas à Alger, par exemple. Orange, je connais pas, je suis jamais allée. J'aimerais bien y aller.
Et vos filles ne connaissent pas l'Algérie?
Mes filles ne connaissent pas l'Algérie, ouais. Ça, c'est un pas qu'il faut que je franchisse. Pourquoi j'arrive pas à le franchir? Alors là, je sais pas. Mais ça va venir.
Alors, Nadja Harek, vous êtes par ailleurs, et ce n'est pas un détail, originaire dans la famille de Sétif. Et oui, Sétif, ça rappelle une page tragique de l'histoire franco-algérienne. Et vous avez cette phrase dans votre documentaire. Que faire de cet héritage quand on est français d'origine algérienne? Alors on pourrait imaginer, puisque je sais que vous admirez beaucoup le réalisateur Ritipan, cambodgien, qui lui travaille sur la mémoire du Cambodge aussi, que vous vous intéressiez personnellement à ces massacres perpétrés à l'époque par l'armée coloniale française contre ces musulmans de 1945. Est-ce que cette page d'histoire pourrait être un sujet pour vous de documentaire?
Bien sûr, bien sûr. Par rapport à Sétif, qu'est-ce qu'il faudrait raconter? Est-ce qu'il faudrait raconter ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'il faudrait parler d'aujourd'hui, de l'absence justement d'informations dans les manuels scolaires? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui sont occultées par rapport à... C'est ça en fait qui me taraude, moi.
Le vrai sujet pour vous, c'est l'occultation.
Ouais, l'occultation, et c'est des deux côtés, chacun raconte sa version, jusqu'à quand ça va durer, quoi. C'est pas possible, ce n'est pas le cas avec l'Allemagne.
Vous pensez que ça joue, ça, cette histoire d'occultation dans votre rapport à l'Algérie ?
Dans le rapport de tout le monde, c'est pas que moi.
Je parle de vous, là.
Oui, oui, moi, ça joue parce que, par exemple, on mesure pas, en fait, les dégâts générationnels. Un exemple tout bête. Ma mère, elle a perdu son père à l'âge de 7 ans. Son père avait peur de l'armée française. Donc, il a été, on va dire, arrêté, menacé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Ça m'intrigue. Et elle me dit, tout ce que je peux te dire, c'est quand il est revenu d'Alger, il est tombé malade, il avait la jaunisse et il est mort. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait peur de l'armée française. Donc, elle perd son père. Ensuite, elle m'a moi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on a une histoire, on a une filiation avec la guerre d'Algérie. Même si c'est de côté, même si on n'y pense pas, ça fait partie de nous. Et tout le monde a une histoire, et nous, les enfants d'immigrés, on habite ici, on vit ici, on est des sujets français, on est... Vous voyez ce que je veux dire ?
Des sujets français ?
Ouais, je me suis... Voilà, un lapsus incroyable. Pourquoi je dis des sujets ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est difficile de dire qu'on est français. Et je reste comme ça quand je dis ça.
Vous n'y croyez pas ?
Ouais, j'y crois pas, ouais. J'y crois pas totalement. Je peux pas dire que je suis totalement française. Et d'où ça vient ? Ça vient pas forcément de moi. Ça vient de tout un cheminement, tout un parcours scolaire, étudiant, dans la vie, dans les échecs, dans les réussites, les portes fermées, les portes ouvertes, les portes défoncées, le hip-hop. Pourquoi le hip-hop, je me sens chez moi ? Parce que c'est une culture métissée. Parce que c'est une culture où on se pose pas de questions sur les origines.
Mais vous, parce que vous êtes Nadja, et parce que vous aimez le cinéma, vous avez d'autres références que le Maghreb en tête.
Vuoi una mozzarella in carrozza pure te?
Si sta a fare.
Due mozzarella in carrozza e vieni subito.
Sono contro a miliare.
E mangiare come quelli lì poco poco, bisognerebbe guadagnare un milione al mese.
Jay.
Magna, magna, ci pensate. Piace. Magniamo e via. A tutto si rimedia.
Si comme j'aime.
Meno che la morte.
J'aime pas.
Ladri di biciclette. Le voleur de bicyclette en français.
Ah, j'aime. J'aime. Quelle histoire. Rappelez-nous. C'est un type avec son fiston. Il n'a pas de thune, le pauvre. Et il voit une bicyclette et... Il est poursuivi comme ça et c'est tout par le regard de l'enfant et ça parle de l'Italie, ça parle du monde ouvrier.
Vous sentez proche hein, du cinéma italien, de la culture italienne aussi.
Ouais, pourquoi est-ce que je suis proche de l'Italie ?
Cousin du Maghreb. Hein.
Ouais, la Méditerranée, la nourriture, les fringues, la musique, les films de gangsters. Ouais.
Regardez les nuages.
Ouais, j'adore regarder. C'est une chose que je fais beaucoup. Tous les jours, je regarde le ciel et les nuages passer. Les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Comme dirait un poème, c'est dans un poème, l'étranger. Qu'aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dit ton père, ta mère, ton frère ou ta sœur ? Ah, je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Et après, je crois qu'à la fin, c'est « Mais qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?»« Ah, j'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. »
La fiction.
La liberté.
Vous aimez ou pas la fiction ?
J'aime la fiction, pardon. Oui, j'aime beaucoup la fiction. Ça m'a construit quand même.
Alors la fiction, elle commence quand même à vous faire les yeux doux personnellement, hein, Nadja Harek, puisque vous êtes autorisée il y a 2 ans un très joli court-métrage Jamais ensemble. C'est l'histoire de deux frangines, Leïla et Samira, vivant dans un quartier populaire de Montpellier, très surveillé par Malik, le grand frère, qui lui a le droit de sortir, alors que les frangines n'ont pas le droit. Un grand frère qui s'autorise à lever la main sur elles quand elles prennent trop de liberté.
T'as mal encore ?
Ma poussée, l'oreille, j'ai perdu une boucle. C'est une bâtard. Pour moi, c'est mort. Mais toi, ce soir, tu sors.
Moi ?
T'inquiète. Je vais texter Francesca pour qu'il repasse dans 1 heure. Toi, faut bien que tu sortes un jour. Bien que tu connaisses les soirées, le monde de la nuit.
Ouais, je kifferais grave sortir, mais ça me fait flipper de ouf.
Mais non, t'inquiète.
Je te jure, des fois, j'ai du mal à croire que c'est notre frère. Qu'est-ce que ça peut le foutre à lui si on sort ou pas ? franchement.
C'est pas un frère, ça. Tu crois que c'est un frère, ça? Tu m'aurais eu dans le fossé tout à l'heure. Un chien. Un chien. Tu choupais par le loup.
Un chien chopé par le loup. Jamais ensemble, une fiction de Nadja Arek, notre invitée. C'est un coup de gueule contre la tradition?
Oui, c'est un coup de gueule contre... Est-ce que c'est la tradition? Ou est-ce que c'est pas plutôt du machisme? C'est un coup de gueule contre le mépris de la femme.
C'est la tradition qui érige les grands frères en roi absolu.
Mais c'est vraiment la tradition, ou c'est, j'arrive pas à savoir d'où ça vient.
On peut le traduire autrement, bien sûr.
Ouais, jusqu'à quand ça va durer, surtout? C'est ça, pour ça que j'ai fait ce film. Jusqu'à quand on sera jamais ensemble, en fait?
Les garçons et les filles, les frères et les sœurs.
Les frères et les sœurs.
Les maris et les femmes.
Ouais, ouais. Une nana qui sort, qui va boire des coups, qui rentre seule, qui va danser par exemple, c'est qu'elle va chercher forcément quelque chose.
C'est ce que vous avez vécu, vous, adolescente, ou pas?
C'est ce que je vis encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu adolescente, c'est ce que nous renvoient aussi les hommes quand on sort.
Donc vous êtes toujours un être mineur?
Ouais.
Au regard de la famille, du quartier?
Ouais, mais c'est quoi ça, la famille, le quartier? La famille, je l'ai quittée, le quartier, je l'ai quitté.
Mais vous vous sentez toujours dépendre d'un regard?
Non, pas du tout, je suis très libre, non. Encore heureux. J'ai pas fait tous ces combats pour qu'on me dise quoi faire, il en est hors de question.
Donc vous combattez pour les petites sœurs?
Exactement. Et jamais ensemble, c'est un peu ça, quoi, c'est... C'est l'incommunicabilité au sein d'une même famille et c'est la différence de traitement. Comment vous pouvez pas traiter vos enfants de la même manière? Comment c'est possible? Je comprends pas, moi. Je ne comprends pas.
Il y a du boulot.
En sol majeur, @rfi.fr.
Merci Nadja Arek d'être venue avec ce beau documentaire Mayotte Hip-Hop Révolution et en sol majeur et même RFI est de tout cœur avec vous. Et puis voilà que Wagner plane déjà au-dessus de nous. C'est un petit clin d'œil à Apocalypse Now que vous affectionnez, je le sais. En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast avec notre application Pure Radio. Et bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. On ne le dira jamais assez. On vous retrouve demain avec une rediffusion autour d'Assa Traoré. À demain.
Oh, I do love this. Yes.